quelqu'un pousse un cri. Y'a du basse devant la tour. Y'a du basse devant la tour. Y'a du basse devant la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. Avec des mitraillettes, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et donc L'Envolée, c'est une émission qui se bat contre toutes les prisons et qui essaye de donner un peu la parole au maximum aux prisonniers et aux prisonnières qui sont à l'intérieur, quelle que soit la tôle, quoi. On va commencer par rappeler les contacts pour nous joindre. D'abord, vous pouvez nous écrire des lettres au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Et vous pouvez nous appeler toute la semaine au 07 53 10 31 95 ou en direct au 01 40 05 06 10. Alors, ce soir, il y a pas mal de monde autour de la table. Donc, c'est pas suite à l'appel. Et donc, il faut quand même continuer à venir nous voir. Mais il y a du monde, quoi. Déjà, il y a Greg qui est à la technique.
Salut.
Il y a Alice qui est avec nous.
Salut.
Il y a Mohamed qui est avec nous.
Salut.
Serge qui est là.
Salut tout le monde.
Inès.
Salut.
Et Alex, qui fait le fil, quoi. Dans cette émission, on va commencer d'abord par lire des lettres. On a reçu trois lettres de Libreflo, qui est enfermé au QI de Bois d'Arcy. On a beaucoup parlé de toi ces derniers mois. On a lu beaucoup de tes lettres. Et donc là, on va essayer un peu de lire les dernières lettres. Il faut quand même faire une petite remarque à la juge d'instruction. C'est que c'est un tout petit peu relou, ces retards et ces compactages à base de trois lettres. Donc voilà.
Quand on reçoit plein de lettres d'un coup, on avait prévu une émission, là on est obligé de faire de la place, donc voilà. Ce serait cool que la juge d'instruction elle fasse un peu son taf au quotidien, voilà, et pas qu'elle rompe des échanges, parce qu'en vrai ça faisait quand même deux mois qu'on n'avait pas de nouvelles, enfin un mois, et bon, on s'inquiétait pas trop parce qu'on savait que c'était ça, mais n'empêche que c'est relou, quoi. Voilà.
Et donc, juste après, on va revenir avec Mohamed un peu sur à la fois le passage Tôle-Cra et en même temps la situation à Vincennes pendant l'automne. On va avoir un appel d'une proche, de quelqu'un qui est resté pareil, qui a fait 2 mois ou 3 mois à Vincennes, puis qui s'est fait incarcérer pour refus de test PCR à la santé. Et on va finir l'émission par un appel à soutien à Youri Laroche, dont on a pas mal parlé dans les émissions de juin et septembre, puisque c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu à Condé et qui depuis subit la vengeance des matons. Et peut-être que si on a le temps, on fera une présentation du journal. Mais a priori, vu comment c'est parti, plutôt faudra attendre février, quoi. Donc, on va commencer par vous lire une lettre. Enfin, donc ça va être un enchaînement de 3 lettres et après on va répondre rapidement, quoi.
Alors la première lettre, elle date du 31 décembre. Salut, salut, un petit coucou pour vous donner quelques nouvelles. Après des mois de plaintes répétées à propos de douleurs articulaires, on m'a refilé un rendez-vous avec une kiné, puis un autre, puisque le premier n'a pas eu lieu, et j'espère en avoir un autre bientôt, puisque le second n'a pas eu lieu non plus. La cause, je suis au QI. Et le dentiste, merci au sentiment de culpabilité. Je m'explique. Comme d'hab, j'ai rendez-vous, les surveillants, surveillantes et la gradée sont au courant et je ne vois rien venir. Le matin, je vais à l'oprimenade du QI, c'est dans le même couloir, en précisant « si le dentiste ou la dentiste appelle, vous me sortez et vous m'y amenez ». Oui, oui. Début d'après-midi, on m'emmène à la salle de sport, je précise « si le ou la dentiste appelle, vous me sortez et m'y amenez ». À ce moment-là, la gradée me dit « que le rendez-vous n'aura pas lieu, que la dentiste ne peut pas me recevoir. Dépité, ça doit se voir un peu sur ma tronche, je lui dis que c'est comme d'habitude, que mes rendez-vous sont toujours repoussés. Celui-ci depuis 4 mois, qu'hier encore, celui du kiné aussi. Et là, je découvre sur son visage comme un malaise, mal à l'aise, un air un peu gêné, comme une once d'empathie mêlée à de la culpabilité. Je finis le sport, il ou elle me dit qu'il a rappelé la dentiste, qu'il ou elle a fait pression pour que mon rendez-vous soit honoré. Oui, oui, c'est un peu gros. Il ou elle en fait trop, c'est pas crédible. Quelques minutes après, j'apprends par le personnel médical que mon rendez-vous était ce matin et que le personnel de l'AP, c'était le ou la même gradé ce matin, avait déclaré que je n'irais pas à mon rendez-vous. Bon, évidemment, comme mon rendez-vous qui devait être le dernier ne s'est pas déroulé au moment prévu, ça foutait la merde à l'UCSA, donc le pôle médical. Et suite à un cognage de porte et un échange non verbal que je n'ai pas pu voir à cause de ma posture, ma consultation s'est finie plus vite que prévu, selon ma perception, et un autre rendez-vous m'a été redonné. Bon, en tout cas, là où j'avais le plus mal, ça a été rebouché. Donc oui, je remercie le sentiment de culpabilité, car ce n'est hélas pas étrange que des personnes, pour en faire le moins possible, annulent les soins des personnes isolées. Encore moins étrange quand on sait que ce ou cette même gradée, peut-être pour éviter le surmenage, a tendance à oublier d'emmener les personnes en oprimenade, ou en les oubliant dedans, ou en les oubliant dans la salle de sport, ou en les oubliant dans la douche. Comme si l'enfermement au régime d'isolement n'était pas suffisant, il faudrait encore nous faire galérer toute la journée à poireauter. C'est vrai qu'on est chiant à vouloir profiter de tous ces fantastiques bienfaits et des nombreuses activités auxquelles on a droit. On veut sortir, rentrer, se dépenser, se laver et même retourner s'instruire en cellule. Mince, cela l'oblige à faire son travail. Peut-être qu'il ou elle, en nous faisant subir ces attentes abusives, espère qu'on se lasse et reste enfermé en cellule 24 heures sur 24 pour lui permettre de se tourner les pouces. Raté. Sinon, lundi dernier, j'ai pu constater le retour des plexiglas au parloir. Au moins, il n'y a plus cette table qui prend toute la place. D'ailleurs, en lisant certains témoignages d'autres détenus dans l'envolée, il est question d'intimité lors des parloirs. Ici, à Bois-Larsouille, d'intimité, il n'y en a point. Les parloirs d'architecture panoptique sont vitrés des deux côtés où circulent en permanence plusieurs surveillants-surveillantes qui nous épient sans cesse. Je termine cette lettre là pour qu'elle parte ce matin. Je vous écoute ce soir, sûrement une émission enregistrée. Merci à vous pour votre soutien. Courage à toutes et tous les enfermés et leurs proches. Salutations et respect. Libre flot.
Ouais, du coup, on a reçu ça avec une deuxième lettre. Donc les deux, elles sont datées du 31 décembre. Et Serge va nous lire la deuxième.
Après 4 mois de plaintes répétées à propos de douleurs généralisées aux articulations, j'ai enfin, après 3 rendez-vous repoussés, vu le kiné. Verdict, c'est normal dans ces conditions. Étrangement, c'est toujours et encore la même rengaine, quels que soient mes mots. Mes maux de tête semi-permanents, c'est normal dans ces conditions qu'est l'isolement. mes pertes de mémoire, mon incapacité de concentration, la perte de repères spatio-temporels, mes douleurs cardiaques, mon oppression thoracique, mes troubles visuels, mes vertiges, mon hébétude, etc. Pareil, c'est normal au vu de mes conditions de détention. Dans un environnement normal, et même en détention classique, pourtant, subir l'ensemble de ces maux n'est pas considéré comme chose normale. Y introduire le facteur quartier d'isolement ne la rend pas plus normale. Tout comme ce que l'on dit avant un « mais » n'a pas vraiment de sens. Je suis pas, mais... Définir quelque chose de normal, mais uniquement sous des conditions spécifiques, ôte automatiquement toute notion de normalité. On ne peut dès lors plus parler de conséquences logiques ou de réactions systématiques. Si le fait d'obtenir les mêmes résultats en prenant n'importe quelle personne et en la plaçant dans une cellule 22 ou 23 heures par jour sans interaction sociale est considéré par les médecins de Luxa comme normal au vu des conditions de détention en isolement, cela veut en fait dire que ces conséquences subies par la majorité des personnes en QI sont donc bien des réactions systémiques et sont aussi très bien connues. L'utilisation mensongère du terme « normal » associé au « entre guillemets dans ces conditions » est en fait un euphémisme ayant pour but de masquer la vérité toute simple qui est que la détention en QI provoque de graves souffrances aux individus. Souffrances tant physiques, cérébrales et psychologiques qui, étant connues et systématiques, sont donc acceptées et voulues par l'admin pen ou ses commanditaires. C'est ce que l'on appelle de la torture. Le personnel médical, lorsqu'il abuse volontairement de cet euphémisme fallacieux pour éviter d'énoncer la vérité qu'il connaît, n'œuvre plus à la santé de ses patients et patientes, mais leur ment, les trompe, couvrant ainsi les méfaits de l'admin pen et lui permettent ainsi le maintien en isolement, ce qui dégrade profondément les individus. Luxa se rend donc complice de cette torture. Mais bon, on ne mord pas la main qui, même indirectement, nous nourrit. L'utilisation normale d'un euphémisme médical pour une torture carcérale. PS, et oui, je vous ai encore glissé quelques phrases à rallonge, vous allez kiffer pour une lecture à voix haute. Non, c'est promis, c'est pas du sadisme. Bah écoute, on l'a bossé, donc voilà, j'espère que ça allait. J'ai l'impression que ça va, mais je t'avoue que j'ai flippé avant de la lire, mais c'était vraiment très cool au bout du fond. On en discute dans quelques minutes après d'avoir lu une lettre qu'on a reçue aussi en même temps, mais qui est, elle, datée du 13 janvier.
Salut à vous tous et toutes. Juste un petit coucou pour vous partager une réflexion sur le langage utilisé par Luxa pour dédouaner l'administration pénitentiaire des conditions inacceptables de la détention en QI. N'ayant pas envie de passer 15 ans dessus, et d'ailleurs l'écriture devenant de plus en plus difficile, la forme de ce bref texte peut être un peu lourd et redondant, tout en simplifiant et réduisant des processus de réflexion. Toujours est-il, et c'est le principal, que l'on comprendra aisément, je l'espère, le fond et le sens du propos. En ce qui concerne ma situation, je ne m'étalerai pas sur mes différents soucis, moi aussi j'utilise les euphémismes médicaux, vous comprendrez que rien ne s'est amélioré. Cela ne se peut sans l'émanation des causes, sans l'élimination des causes provoquant les maux. J'ai juste ajouté à ma routine les exercices conseillés par le kiné. Quant à ma détention provisoire, cela fait plus de 3 mois que je n'ai pas de nouvelles du juge d'instruction, que rien ne se passe. Récemment, lors du renouvellement de mon mandat de dépôt, le JLD, juge des libertés et de la détention, avait ordonné une enquête de faisabilité pour une liberté conditionnelle, je ne suis pas sûre de ce terme, mais en gros, prison à la maison avec bracelet. Cela fait désormais plus d'une semaine que nous savons que le juge d'instruction a la réponse, que mes avocats et avocates ont demandé qu'on la leur transmette. Mais rien. Encore une fois, le juge d'instruction fait durer le plaisir. Cela ne pourra pas, dommage pour lui, durer éternellement. Pendant ce temps, je ne peux que constater ces pratiques humanistes. Voilà pour aujourd'hui, au plaisir de vous écouter et de vous lire. Merci encore pour votre soutien à tous, pour votre soutien à toutes et tous les enfermés et à leurs proches. Force et courage à elles et spécialement aux isolés. Salutations et respect, Flo.
Ouais, bah, cette manière de faire galérer et de gagner du temps, ça rappelle un peu la situation de Claudio Lavazza dont on parlait dans les dernières émissions. Où pareil, il y a une procureure qui fait tout pour gagner du temps et maintenir la personne enfermée alors qu'il aurait dû être libérable depuis le 11 décembre après 25 ans de tôle. Donc c'est vraiment des pratiques voilà, bah, dont on parle souvent ici. Et sinon, bah, pour le reste, il y a genre quand même pas mal de choses à dire.
Peut-être déjà commencer avec... Enfin, quand on a lu la lettre pour préparer l'émission, ça t'a fait penser à...
Pardon, excusez-moi. Le mec, là, il a passé du mitard. On appelle ça le mitard. C'est quartier d'isolement.
Et en là, fait... là, c'est pas vraiment le mitard. C'est le quartier d'isolement. Tu sais, c'est le quartier où tu peux être en contact avec personne. Mais quand même, à l'intérieur de ta cellule, tu as le droit d'avoir une télévision. Voilà, tu peux parfois aller à la salle de sport. C'est pas exactement le même quartier. Mais c'est tout autant de la torture blanche. Hein. Enfin, donc, et c'est normal que... Quand tu lis ça, tu penses directement au mitard parce qu'en fait, c'est quasiment pareil. La même chose, quoi. Voilà, mais ça porte pas le même nom. Et en fait, tu peux y rester aussi longtemps que, enfin, en fait, aussi longtemps que ta peine. C'est pas comme au mitard où
théoriquement,
tu peux n'y être que 30 jours d'affilée, mais on sait très bien qu'ils te font après derrière sortir une journée pour te remettre derrière et tout. Voilà, mais donc là, tu peux y rester toute ta peine. Ouais. Voilà. Mais donc, ouais, pardon.
Bah, moi, je parlais parce que j'ai eu l'expérience de passer au mitard. Je me suis rappelé pour allumer une clope. Ben en fait, comme on n'a pas le droit d'avoir des briquets dans le mitard, ben normalement ils mettent genre c'est comme l'allume-cigare quoi, ça s'allume, mais je vois pas où est l'intérêt de le mettre genre à 3 mètres pour appuyer et allumer la cigarette de l'autre côté. Mais pour moi ça c'est de la torture morale, parce qu'ils peuvent le mettre devant le truc qui s'allume, mais nous on doit marcher 2-3 secondes, genre 3 mètres, appuyer derrière la grille et aller vite avant qu'il s'éteint pour allumer une clope.
Voilà. Ouais, c'est tous les trucs pour faire galérer quelqu'un quoi, au maximum. Voilà. Genre la punition dans la punition. Quoi. Et parce que quand tu dis mitard, c'est les quartiers disciplinaires. Pour les gens qui ne savent pas. Quoi. Et du coup, c'est crari quand l'administration pénitentiaire a reproché quelque chose à quelqu'un, que ce soit vrai ou pas, quoi, on peut l'envoyer jusqu'à 30 jours officiellement là-bas. Quoi. Ouais, tu voulais dire
autre chose. Allez-y.
Ok. Moi je voulais dire, franchement, ton style d'écriture, il est vraiment très stylé, mais à l'oral, il est quand même vraiment pas facile. Le j'abuse, buse. autant il fait plaisir à lire, autant voilà. Et après, sur toutes les questions de plexi et de parloir, on essaiera de revenir un peu plus là-dessus, parce que c'est un truc qui est vraiment qui s'est régénéralisé partout. On rappelle que c'est quand même principalement des prisonniers qui sont sous-payés qui vont les installer. Et qu'en fait, avant ça, on appelait ça un parloir hygiaphone. Et que donc c'est une sanction. Et que de manière générale, dehors et dans toutes les tôles, la gestion de la crise sanitaire, elle se fait que par du sécuritaire et des sanctions supplémentaires. Et donc là, c'est typiquement le cas. Ce que tu racontes, c'est la même chose. Moi, j'ai jamais fait de parloir à Bois d'Arcy. Mais partout, en fait, à Valence, à Fresnes, à Liancourt, les matons, ils passent leur temps à guetter. Est-ce que tu n'es pas en train de faire un câlin à ton pote, à ton proche, etc. dans l'espoir de te suspendre ton parloir, quoi. Et c'est pour ça, quand on dit que, en fait, c'est tous des chiens et qu'il n'y a pas une question de bon, de mauvais maton, etc., etc., c'est vraiment là-dessus, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils prennent plaisir à aller te surveiller pour voir si tu ne fais pas un câlin à ton pote pour te sucrer ton parloir et que tu regalères pendant des mois et des mois pour le réobtenir, quoi.
Puis à Bois d'Arcy, là, on a eu des nouvelles récentes par des poteaux et tout ça. Ils ont aussi interdit les colis. Donc c'est pareil, c'est toujours le même truc, c'est comment avec le Covid en fait ça leur donne une pseudo-excuse pour après derrière sanctionner des espaces et surtout pour que eux à l'intérieur ils se fassent pas chier à faire le taf. Donc ça les fait chier de devoir checker les colis, ils refusent de laisser passer les colis sans les checker ce qu'on fait c'est qu'on les interdit quoi. Et donc normalement il devait y avoir des colis, donc les colis c'était du 15 décembre au 15 janvier.
Ça dépend des tôles.
Ça dépend des tôles, en tout cas là, à Bois d'Arcy normalement c'était ça. Donc ils ont enlevé, supprimé pour le dernier week-end. Donc il y a plein de familles en fait qui se sont retrouvées à devoir récupérer leur propre colis de Noël. On restera attentif, mais ça veut dire qu'ils doivent continuer à l'étendre. C'est-à-dire que quand ils vont enlever cette mesure-là, doit y avoir encore un week-end supplémentaire. Et c'est pas les 3 jours en plus qui vont tomber le lundi, mardi, mercredi, mais un week-end, où on doit pouvoir apporter un colis de Noël qui devrait déjà avoir lieu toute l'année. Hein. Donc,
je rappelle que c'est hyper important, hein, ces histoires. sorte que les Noël, parce que c'est quand même un moment où les proches, enfin quand t'as quelqu'un à l'intérieur, c'est un moment où tu peux lui ramener des choses, quoi. Et donc c'est un moment où tu peux montrer à ton pote ou à tes proches que, bah, que tu fais attention à eux. Et à l'intérieur, c'est aussi un moment où tu vas pouvoir partager des choses. Et que ça fait 2 ans, en fait, que les colis de Noël, c'est plus la même chose qu'avant, quoi. Parce qu'il n'y a plus de produits frais, que du coup...
plus de rien, quoi. Parce que s'il n'y a pas la viande, par exemple, pour les musulmans, ils ne mangent pas de viande rouge en prison. Ils mangent quasiment que du poisson, et c'est rare. Et pour les colis de Noël, bah, ils ont enlevé la viande, donc on ne voit pas l'intérêt. Mais pourquoi déjà ils ont enlevé la viande? Parce qu'on a des frigos, on a tout ce qu'il faut. Donc pourquoi ils ont enlevé la viande?
Ouais, bah, encore une fois, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. L'excuse Covid, et à un moment, quoi, ça suffit. Quoi. Enfin, en fait, déjà, bah, c'est ce que tu disais, Serge. Le colis de Noël, ça devrait être toute l'année.
Voilà.
Et juste déjà, c'est un scandale que ça ne dure que pendant un mois. Et,
un seul colis
de 5 kilos. Quoi.
Voilà. Ouais,
et ça, c'est chaud. Quoi. Enfin, et moi, le dernier truc que je veux... Enfin, voilà. Que je voulais te dire, Flo, moi j'ai reçu ta lettre aussi. Je suis assez chaud pour la revendication du 21e mois et qu'on essaye de gratter tout ça. En tout cas, plein de force à toi et on essaiera de, bah, voilà, de continuer à donner tes nouvelles. On va essayer de te répondre aussi.
Mais non, mais moi je voulais quand même continuer parce qu'il y a plein de trucs qui sont racontés voilà, et qui sont... Enfin, je veux dire, en fait, c'est hyper intelligent et c'est comme d'hab toujours vachement bien analysé, quoi. Enfin, tu vois, le maton ou la matonne qui qu'envoie pas au médical, mais en fait, c'est un grand classique. Enfin, en fait, on sait que ça se passe toujours comme ça. Les médecins, ils laissent complètement faire, hein, parce qu'en fait, là, tu nous
ça leur arrange.
Bah oui, c'est ça. Voilà. Et tu nous réponds. Enfin,
ils auront moins de clients.
C'est ça, tu nous racontes pas comment ça s'est passé à Luxa et tu racontes juste que bah, ça les a un peu fait chier parce que c'était pas très très pratique. Mais en même temps, les types ils ont pas demandé où est-ce que t'étais, quoi. Enfin, voilà quoi. Donc ça c'est toujours le même truc. Voilà. Et dans mes souvenirs, eux ils ont le droit d'entrer en détention. Donc tous les médecins qui se plaignent d'avoir des critiques, voilà, parce qu'ils ont l'impression d'être des bons samaritains parce qu'ils bossent à l'intérieur des prisons, quand ils reçoivent pas quelqu'un, qu'ils aillent à chaque fois dans la coursive vérifier s'il a personne a réellement pas eu envie d'aller au médical, ce qui est complètement son droit, soit que, comme c'est généralement le cas, des matons qui n'ont pas voulu les amener. Et voilà, et en fait, tu décris bien en fait comment c'est une lutte de petit à petit où ils espèrent qu'à la fin ils se démoralisent, enfin que à l'intérieur tu te démoralises et comme ça tu arrêtes de l'emmerder pour travailler, quoi. Et donc tu captes tout bien, et enfin voilà, et donc c'est hyper cool. Et pareil. Sur les conditions normales de détention. Enfin, tu décris très bien comment Luxa et donc le médical valident la torture blanche. Voilà. Et
tu l'avais déjà très bien fait, mais il me semble qu'on avait lu une espèce de scène de théâtre que tu avais écrit en décembre où tu racontais l'interaction avec le médical et bah voilà, comment ça se passe plus concrètement avec le personnel, quoi. Et Non, moi je disais juste ça.
Hein. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que voilà, ça pourrait être des lettres qui feront encore largement leur place dans le prochain numéro.
Ouais, on va essayer de les retaper, de les mettre sur le site, de les faire tourner un maximum. N'hésite pas à continuer de donner des nouvelles, même si des fois on met un peu de temps à répondre. Je suis pas désolé, mais voilà, on va essayer d'être plus réactif, quoi.
Et peut-être juste, quand on a lu les lettres, tu voulais nous raconter un truc par rapport aussi à une rage de dents que tu avais eue
Oui, effectivement, j'avais un jour une rage de dents. Et quand je demandais d'aller voir le dentiste, quoi, bah, ils me disent que voilà, il y a le Covid et Luxa est fermé. J'ai dit, mais comment ça se fait? En tout cas, même l'officier, l'officier, c'était une dame, elle m'a dit que voilà, c'est vrai, c'est comme ça, mais je ne peux rien faire. Donc je lui ai dit, moi, je dois me diriger vers qui? Vous êtes la première responsable, donc c'est à vous de me régler ça. Et du coup, ils m'ont dit, il faut patienter, mais moi, j'arrivais pas, j'avais une rage dedans. Je lui ai dit, maintenant, bah, j'ai bloqué. On dit ça bloqué, donc je rentre pas dans ma cellule. Et du coup, je lui ai dit, voilà, c'est soit vous appelez les pompiers, soit moi, je rentre pas. Parce que c'était vraiment mal. Et le truc, c'est que, Alexa, ils disent quoi? Ils disent, vu qu'il y a un cas Covid dans notre bâtiment, bah, c'est tout le bâtiment qui est fermé. Il est bloqué. Et je leur pose la question, quand on va à l'hôpital, même si on est atteint du Covid, bah, ils vont me prendre en charge. Et ça, c'est un hôpital, en quelque sorte. Donc, voilà. Il y a ça, par exemple. Voilà. Ils s'en foutent.
Ouais. Bah, en fait, c'est peut-être le moment de rappeler que ce soit les matons ou les gens qui travaillent à Luxa. En fait, c'est pas la même chose que quand tu travailles dehors et que tu es à Auchan ou dans une usine et que tu fais grève ou tu cherches à pas travailler. Là, c'est très bien.
Ouais, ouais.
En fait, là, tu travailles avec des humains que tu enfermes en plus. Voilà. Du coup, t'as pas le choix de faire ton taf et de le faire jusqu'au bout, quoi. Et tous ces trucs-là, des matons pour éviter de ramener quelqu'un à Luxa, tous les trucs pour gratter du temps et qu'eux, ils soient peinards dans leur bureau, en fait, c'est honteux, quoi.
Voilà.
Et du coup, voilà, c'est pour ça que nous, les grèves de matons, on gueule quand il y en a, parce qu'en fait, il y a des humains derrière qui ont plus de parlu, qui ont plus leur cantine, etc.
Voilà.
Et donc, voilà, c'est pas la même chose que tous les travailleurs et travailleuses, quoi, en vrai. Voilà. Et bah, peut-être qu'on va passer un...
Un petit coup de pression sur la juge, enfin la coup de pression, je pense qu'elle en a rien à péter, hein. mais quand même sur cette juge d'instruction qui fait traîner et tout ça, dans mes souvenirs c'était la semaine dernière dont on parlait comme ça de juges qui font, bah oui pour Claudio Lavazza, qui font traîner et qui trouvent un peu tous les trucs et toute leur lecture du droit possible pour pouvoir enfermer plus. Encore une situation comme celle-là. Et comme d'habitude, hein, c'est sur ces cas un peu spécifiques qu'ils considèrent comme étant des prisonniers politiques et autres, quoi. Et donc, en tout cas, on restera attentif et on croise les doigts. On sait que le bracelet électronique, ça reste un enfermement, mais c'est toujours mieux d'être enfermé plus proche de ses proches que dans les cellules des tôles et en particulier à l'isolement.
Bah, faut juste rappeler qu'en fait, avant qu'il y ait le bracelet, quand t'avais une condi en fait, et du coup tu rentrais chez toi. Que c'est la même chose maintenant pour les amendes, pour tout ça, c'est des peines supplémentaires. C'est-à-dire qu'avant tu sortais quoi, ou t'étais pas condamné, et basta quoi. Enfin, t'allais pas en tôle. Et donc à chaque fois qu'ils rajoutent des conneries de peines alternatives ou ce genre de trucs, ça veut juste dire qu'on peut prolonger l'enfermement plus longtemps quoi, que ce soit dehors ou.
Bah c'est la même chose pour moi par exemple. Bah j'ai passé 25 mois de mandat dépôt, et du coup quand j'étais jugé. Bah, d'après mon avocat, normalement, c'est le maximum, c'est un an. Après, il m'a dit, voilà, et pour couvrir la peine que j'ai passée, bah, ils m'ont donné 3 ans, 1 an avec sursis. Donc, j'ai passé les 2 ans, je sors. Et bien évidemment, ils m'ont transféré direct vers le CRA de Vincennes. Et j'allais dire quoi déjà?
Mais sinon, on passe un coup de musique et puis on raconte, on passe à toi. Vas-y, on passe un petit coup de musique.
J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. Rêve. Rêve. C'est Johnny qui prend la qualité. Bordel. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, j'peux pas m'péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson.
C'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix de la paix. J'enlève le prix de rien.
J'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est là où je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien.
Jamais
c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose.
Chef, j'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la cuisse, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, j'peux pas m'péter, ça n'est que mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Hey, réfé, réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson.
C'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix de la paix. C'est peut-être...
passion laisse moi un peu blessé.
Tout
la
seule chose qu'on a changé,
c'est peut-être le prix du blouson.
Tout ça c'est le destin.
Chef.
Après ça on devient des chefs.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'envolée comme tous les vendredis histoires de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris et pour nous appeler, donc le direct c'est le 01 40 05 06 10 et sinon le 07 53 10 31 95.
Ouais, et là on voulait revenir un tout petit peu parce qu'on a coupé un peu vite.
Oui, voilà. C'était en fait par rapport à ma condamnation. Bah, comme je vous ai dit, on m'a donné 3 ans, 1 an avec sursis. Donc comme j'ai passé 25 mois, donc, je suis sorti le lendemain. Et le truc, c'est que quand j'ai appelé le SPI pour récupérer, j'ai passé 10 diplômes, j'ai eu des diplômes en prison et tout pour les récupérer. Et il m'a dit que voilà, normalement, tu devrais être suivi par le SPI pendant 2 ans. Donc quand vous parlez d'une peine supplémentaire, bah, pour moi, c'est une peine supplémentaire.
Ah bah, totalement.
Voilà, pour bon, programmer, aller au SPIP, c'est comme si j'étais en prison. Genre, et si j'y vais pas, bah, le 1 an de sursis, bah, il va devenir ferme.
Voilà. D'ailleurs, on en parlera au début du mois de février, des peines après la peine. Voilà.
Ouais, des peines après la peine, voilà. C'est exactement ça.
Et du coup, toi, Mohamed, après la prison, tu as été envoyé au centre de rétention administrative. Et voilà, du coup, donc, pour rappel, c'est des centres où sont enfermées les personnes qui n'ont pas les bons bouts de papier.
Voilà.
Du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment t'es passé de la prison au CRA?
Bah, en fait, pour commencer déjà, normalement, on devrait signer un papier comme quoi j'ai eu le OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, et l'interdiction aussi. Bah, moi, j'étais pas mis au courant, parce que j'aurais pu parler avec mon avocat et le problème sera réglé. C'était même avec le point d'accès au droit, ils m'ont dit « voilà, t'as pas le kit, t'as rien et tout ». Mais je l'ai su le jour où j'allais sortir, quoi. J'ai préparé mes affaires, j'étais content et tout, j'allais sortir en liberté et tout. Et quand je suis arrivé au greffe, bah, c'était la police du CRA qui m'attendait. Et on m'a dit que, voilà, tu as eu une obligation de quitter le territoire français en 2019. En fait, c'était le jour où j'étais en commissariat. Mais en fait, j'ai rien signé, j'étais pas informé. Donc j'aurais pu éliminer ce truc-là, régler cette affaire. Mais non, on m'a rien dit. Jusqu'au jour, bah, quand je suis sorti, on m'a dit, voilà, tu es transféré vers le CRA de Paris, Vincennes. Parce que tu as une obligation de quitter le territoire français en 2019 et une interdiction de retour dans le territoire français, pareil, en 2019, c'était le même jour. Voilà.
Yes, et du coup, bah, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de prison qui ne s'attendent pas du tout à être envoyées en CRA.
Voilà.
Et du coup, moi, j'ai déjà parlé à des proches, par exemple, qui attendaient la sortie de quelqu'un jusqu'à 5h du mat'. Et en fait, à 5h du mat', ils se rendaient compte que la personne, elle était envoyée directement en centre de rétention sans que personne soit prévenu, quoi. Et du coup, bah, je sais pas si tu veux nous parler un peu de comment ça se passait au centre de rétention aussi, parce que bah, du coup, c'était pendant le Covid aussi, enfin, c'est toujours le Covid. Et...
Oui, bah, j'ai une petite expérience que j'aimerais bien raconter. Bah, c'était le premier jour en fait, bah, quand je suis allé au CRA, bah, ils ont commencé à la fouille de mes affaires. Et comme j'avais l'habitude, donc il faut assister à la fouille, que ce soit au commissariat ou en prison et tout, on assiste à la fouille. Bah, j'ai demandé est-ce que je peux assister à ma fouille. Et bah, ça, c'est entre guillemets, c'est pas important, mais on m'a même volé des trucs. Voilà, j'avais un parfum que je n'ai pas trouvé et tout. Bon, ça, bref. Mais j'ai demandé à assister à ma fouille, il n'y avait personne qui me répondait. Donc, du coup, j'ai cherché du regard s'il y a quelqu'un, un officier ou quelqu'un qui peut me répondre. Bah, il n'y avait personne, donc je me suis levé. Et là, il y a une dame de la police, elle est venue pour me dire vas-y, assis-toi. Donc, elle m'a directement déjà tutoyé. Et ni s'il vous plaît, ni rien. C'est assis-toi. Je lui ai dit, madame, mais je demande est-ce que je peux assister à ma fouille. Il fallait juste me répondre par oui ou non. Et c'est bon. Elle m'a dit, non, assis-toi. Et je lui ai dit, mais après, elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Bah, bien évidemment, j'ai riposté. Et voilà, j'ai porté plainte. Mais elle est partie sans suite. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce que au départ, bah, quand on rentre le premier jour, bah, les locaux là on fait les empreintes et tout, et ils prennent nos coordonnées, les photos et tout, bah, il n'y a pas de caméra. Dans tout le centre, il y a des caméras, le réfectoire, là où il y a les prisonniers, il y a les caméras. Mais là où il y a les policiers, il n'y a pas de caméra. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
C'est pas qu'il n'y a pas de preuves, c'est que ta parole, elle vaut rien.
Parce que si on avait eu exactement l'histoire dans le sens inverse, où c'était un keuf qui avait dit il m'a insulté.
Là, ils n'auront pas besoin de
là, preuves. Là, par contre, ils n'ont pas besoin de preuves. Ouais. Donc voilà, c'est juste que ta parole, un juge, il n'en a rien à péter. Voilà. Mais les preuves, il les avait. Tu as raconté ce qui s'est passé. Et
voilà. Il y avait même des témoins, il y avait d'autres personnes qui étaient avec moi. Donc,
c'est juste qu'ils argumentent comme ça juridiquement. Mais en vrai,
plus de preuves. En vrai, t'es pas policier, t'es pas dans l'État, donc t'es un sous-homme pour moi. Voilà, c'est un sous-homme, mais eux, c'est des hommes, c'est des officiers, etc.
Et du coup, pour aussi expliquer un peu, dans les centres de rétention, c'est pas des matons, c'est la police quoi, qui travaille.
C'est la police, ouais.
Et notamment à Vincennes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une école de police juste à côté. Du coup, en fait, il y a déjà des gens qui sont à l'intérieur qui nous disent, en fait, ils mettent les gens qui n'ont aucune expérience, ils mettent les stagiaires, comme tu dis, pour qu'ils se fassent leurs armes au centre de rétention, quoi.
Voilà. Et celui qui a un peu de pouvoir, il fait ce qu'il veut. Il insulte les gens, il tape les gens, et il n'y a personne qui parle. Parce que c'est la police, c'est entre eux. Il n'y a personne qui dénonce, il n'y a personne qui... Voilà. C'est toujours eux qui ont raison, quoi.
Et sinon, on a eu plein d'appels de prisonniers de Vincennes qui racontaient qu'à la fouille, justement, vu que c'était une zone sans caméra, ils avaient mis une des équipes qui était très violente, qui tabassait ou qui insultait beaucoup les gens, quoi. Et je sais pas si c'était encore le cas quand toi, t'es passé, quoi. Mais nous, ce qu'on nous avait expliqué en 2019, c'est qu'il y a une équipe qui avant était dans le CRA, où il y a eu beaucoup de plaintes à l'IGPN, etc., qui a été transférée à la fouille. Comme ça, les plaintes, maintenant, elles sont sans preuve, puisque c'est parole contre parole, quoi.
Voilà.
Quand il y a des preuves, ça donne strictement rien. On est d'accord, même quand il y a des images, en fait, les caméras, elles sont coupées. C'est les flics qui ont accès aux caméras.
Ouais, c'est
dans
eux
tous
qui
gèrent
tout, ouais.
Mais, et du coup, ça montre aussi un peu comment eux, ils gèrent ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, la direction du CRA, elle est très au courant qu'il y a une équipe qui est particulièrement violente. Et ils vont essayer juste de la mettre un peu de côté pour qu'elle puisse continuer à exercer sa violence, mais loin du regard, quoi.
Même pas ça, ils sont au courant, ils laissent faire. Ils laissent faire parce que, pourquoi ? Le centre de rétention, c'est des étrangers, donc il n'y a personne qui est français, donc c'est tous des étrangers. Et du coup, ils disent que voilà, parce qu'en fait, la majorité des gens, ceux qui n'ont pas de papier, ils croient qu'aller porter une plainte, ça va leur poser des problèmes. Aller même à l'hôpital, ça peut leur poser problème, pour eux. Alors que non, c'est faux. Et je leur dis, là, s'ils nous écoutent, que voilà, s'ils se font agresser, ils peuvent tout à fait normal, ils ont le droit d'aller porter plainte, et ça leur fait pas de problème par rapport à leur situation administrative. Voilà.
Et l'autre jour, tu racontais aussi, c'est quelque chose qu'on avait relayé sur le blog de Abalekra à l'époque, qu'il y avait quand même un gros mouvement de solidarité avec un prisonnier qui avait été envoyé à l'isolement, où les gens avaient refusé d'aller manger jusqu'à ce qu'il sorte.
Ça, c'était moi, en fait. C'était l'heure de manger. En fait, il y a une petite trappe et on prend des tickets, comme ça, notre carte, le nom ou la carte, on prend le ticket et on va au réfectoire pour manger. Et du coup, ce jour-là, il y avait un policier, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais le truc qui m'a fait réagir, genre, il a poussé très fort la trappe. Il a dit, maintenant, il n'y a personne qui va manger pendant 15 minutes. Il n'y a personne qui mange. Je lui dis, OK, maintenant, toi, tu as décidé tout seul, tu as sorti une loi que personne ne mange pendant 15 minutes. Là, je vais te montrer qu'il n'y a personne qui mange pendant une heure, il n'y a personne qui va manger. Et du coup, c'était ça. Il n'y a personne qui a mangé, personne n'a pris son ticket. Et là, lui, il était en panique parce qu'il y avait les gradés, le commandant et tout. Tout le monde est sorti. Ils sont venus. Après une heure, on a mangé. Mais sauf que le mec, il n'a rien eu. Ni avertissement, ni rien. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Et pour celui qui a été envoyé à l'isolement, tu sais ce qui s'est passé ? Parce que ça arrive au même moment où il y a quelqu'un qui est envoyé à l'isolement, non ?
Ça, peut-être, c'est parce qu'en fait, le centre de rétention de Vincennes, il y a trois centres dedans. Genre trois CRA 1, 2 et 2A. Ou là, 2A et 2B. Mmh. Voilà. Donc moi, peut-être, voilà.
Du coup, pour redire un peu, parce que peut-être, effectivement, c'est dans un autre bâtiment. À l'époque, on avait relié le témoignage de quelqu'un. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé pour chercher son ticket, comme tu dis. Et le flic avait dit c'est trop tard, alors que c'était pas trop tard. Du coup, il avait commencé à s'embrouiller avec le flic, il avait fini par être envoyé à l'isolement. Et tous les gens avaient dit on refuse d'aller manger tant qu'il sort pas. Et en fait, après, la personne avait été envoyée à garde à vue. Du coup, là, les gens s'étaient dit En vrai, c'est chaud si on ne mange pas jusqu'à ce qu'ils sortent de garde à vue. Du coup, ils voulaient aller au réfectoire. Mais du coup, entre-temps, ça avait été fermé. Et du coup, les gens ont décidé de forcer l'entrée du réfectoire, en fait, et ont pété les portes. Et ont pris bien soin avant de casser les caméras, en fait, avant de faire ça. Du coup, il n'y a personne qui a eu de répression suite à ça. Enfin, en tout cas, à ce qu'on sache, quoi. Et ils ont réussi à, du coup, entrer dans le réfectoire et se servir de la bouffe qui restait, le pain et tout. Et voilà. Et du coup, c'était un... Enfin, moi, je trouve que c'était une chouette histoire de solidarité.
En quelque sorte, ils nous forcent à employer de la force. Parce que, voilà, on est des êtres humains. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Et voilà. Moi, par exemple, je ne peux pas supporter quelqu'un qui m'insulte. Pourquoi tu m'insultes? Et en plus, moi, ça m'a choqué parce que c'était la première fois qu'un policier m'insulte. Bah direct, et j'étais surpris, genre une femme en plus, je lui ai rien fait, genre j'ai en train de demander est-ce que je peux assister à ma fouille, et elle m'a insulté, genre voilà, avec un sang-froid incroyable.
Ouais, c'est juste l'habitude quoi, d'insulter voilà. Tout le monde.
Voilà.
Mais ça, après je pense que meuf et mec là-dessus, chez les keufs, ça doit pas changer grand-chose à Vincennes, mais moi ça rappelle juste qu'en fait, tu vois, quand tu dis qu'en tôle, pour avoir accès à la rage dedans, t'es obligé aussi d'utiliser la force, même si c'est un blocage, tu refuses de rentrer en cellule, en fait c'est les mêmes pratiques, tu vois, au crack quoi.
Ouais, ouais.
C'est genre t'es tout le temps obligé de forcer avec eux pour juste avoir le respect de tes droits quoi. C'est même pas pour obtenir la liberté, c'est même pas pour obtenir des trucs de ouf
quoi. Ouais, c'est juste pour, voilà, un simple truc, la santé. Et juste pour info, au CRA, il n'y a pas de dentiste. Donc on a un généraliste, mais sinon il n'y a pas d'autiste. Il n'y a pas de dentiste, s'il y a une rage dedans, quoi que ce soit, c'est les médocs.
Genre voilà. Doliprane ou c'est
Doliprane ou peut-être un peu puissant comme le codoliprane avec la codine ou voilà, le maximum c'est tramadol. Et moi, j'avais une petite rage dedans quand j'étais dedans, c'était pas très méchant, mais quand j'ai demandé à voir un docteur ou quelqu'un qui peut, voilà, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont donné des cachetons et tout. Et moi, je lui ai dit, madame, rien que le doliprane, j'arrive pas à l'avaler. J'ai pas l'habitude à prendre des médicaments et tout. Et ça fait une semaine, vous me donnez un traitement que je prends même pas. Ben, ils disent que voilà, sauf il y a une urgence ou quelqu'un que voilà, il y a du sang qui sort de sa bouche. C'est l'extrême quoi, pour qu'ils puissent le faire sortir chez un dentiste ou.
Ouais, sachant que tu peux rester 3 mois quand même en fait en centre de rétention. Et déjà, quand t'es dehors et que tu dois attendre 2 jours pour te faire soigner une rage dedans,
voilà.
T'as envie de te taper la tête contre les murs quoi. Mais enfin, c'est un truc de ouf quoi de faire ça.
Ouais, encore même dans ces cas-là, souvent les prisonniers sont obligés de se mobiliser pour faire pression pour que les flics laissent rentrer les pompiers dans le CRA quoi. Et sur les médocs, j'ai l'impression que c'est soit on te donne toujours la même chose et des trucs pas efficaces, soit au contraire en fait on te file des médocs pour droguer les gens en fait avant le.
Voilà, c'est droguer
notamment.
Les gens.
Et ça a mené notamment en septembre 2019 à la mort de Mohamed à Vincennes. C'était un jeune qui est décédé soi-disant d'overdose. Et en vrai, il y a tous ces co-retenus qui disaient que l'infirmerie lui avait filé plein de médocs et que c'était de ça qu'il était mort, quoi. Du coup, la santé en CRA, en fait, c'est aussi ça. C'est des pratiques où on shoote les gens pour pas qu'ils résistent à leur expulsion.
Ouais, le tramadol, c'est un médicament qui est vénère, en vrai. Enfin, c'est un truc qui est hyper addictif. Et normalement, tu le donnes pas comme ça, n'importe comment à quelqu'un, quoi. Tu lui soignes sa rage dedans, en fait. Et tu peux lui donner vite fait pour passer, tu vois, la première journée. Mais tu peux pas donner du tramadol à quelqu'un pendant plusieurs semaines et après
surtout
le mettre dehors.
Surtout les dents.
Ou
là, pour
quoi,
tous les gens qui nous écoutent, bah, tout le monde a eu un petit truc dans les dents. Donc voilà, c'est insupportable, on peut pas. Mais eux, voilà, si tu dois passer 3 mois dedans, bah, tu vas rester 3 mois avec ta dent qui, voilà. Il y a des gens qui ont essayé de se suicider, il y a des gens qui se sont fait couper, il y a plein d'histoires, oh, c'est choquant.
Et toi en plus, tu y es, donc, bah, c'est ce qu'on disait, hein, tu y es pendant la période de crise sanitaire, c'est ça? Peut-être tu peux nous raconter un tout petit peu comment c'est géré à Vincennes, quand il y a quelqu'un, par exemple, pour les nouveaux arrivants, pour savoir si la personne a le Covid, quand il y a quelqu'un qui...
Il n'y a aucune gérance, parce que rien que moi, je suis rentré le premier jour, on m'a fait rentrer dans le centre sans test, sans rien. Et c'était le lendemain qu'ils m'ont appelé pour faire un test vite fait PCR pour voir si j'ai le Covid ou pas. Donc, entre-temps, moi, je suis resté avec des potes la veille. Bah, si j'avais le Covid, bah, seulement ce sera contaminé, quoi.
On t'a mis en bâtiment normal, c'est ça?
Genre oui.
Ouais, et après, on te teste le lendemain, quoi.
Voilà, le lendemain.
Et, bah,
et question juste... masque, par exemple. Le masque, normalement, j'ai entendu le Premier ministre disait que le masque, il dure 2 heures. Et au CRA, ils nous donnent 2 masques par jour. Un jour, je suis parti, j'avais oublié. J'ai demandé un masque pour aller à l'infirmerie ou pour se coiffer, je ne sais pas quoi. Ben, elle m'a dit, non, t'as déjà 2 masques par jour, ben, c'est fini. Je lui ai dit, mais madame, je fais comment? Tu veux que je l'achète? Ben, je l'achète si vous voulez. Moi, je dois passer au médecin ou je sais pas quoi, mais tu dois me donner un masque. Si vous voulez, j'ai dans mes affaires, j'ai des masques aussi. Ben, c'est ça. Tu as 2 masques par jour. Et normalement, les 2 masques, si on compte 2 heures par masque, c'est 4 heures. Et la journée, elle a 12 heures la journée. Donc, eux, ils te donnent 2 masques. Et débrouille-toi, range-les, mange-les, fais ce que tu veux, mais tu n'auras que 2 masques.
Ouais, en vrai, ça reflète bien la façon dont ils gèrent le Covid à Vincennes. En ce moment, les gens qui y sont actuellement, ils nous disent que, en gros, quand quelqu'un est testé positif, il est envoyé un jour à l'isolement. Du coup, je sais pas, on sait tous que la quarantaine, c'est minimum un crime, 7 jours. Quoi. Déjà, ouais. Ouais, voilà, déjà voilà. C'est une punition. Et en plus, il n'y a même pas d'efficacité. De fait, le CRA de Vincennes, là, il est plein à craquer. Donc, en fait, tout le monde se refile le Covid. Et par rapport à ça, on voulait aussi dire qu'il y a des centres de rétention qui servent de CRA Covid. Du coup, en région parisienne, souvent, les gens ils sont envoyés au CRA de plaisir, qui est du coup un CRA où les gens positifs y vont. Mais en fait, visiblement, il est trop petit, surtout en ce moment. Et du coup, là, ils viennent d'ouvrir un nouveau CRA à Lyon suite à une grosse période de travaux qui est prévue donc pour aussi enfermer plus de gens et plus longtemps. Et là, vu que c'est le Covid, ils ont dit bah ok, ça va être un nouveau CRA Covid. Et visiblement, les infos qu'on a, c'est qu'ils envoient aussi les gens qui ont le Covid au CRA de Lyon. Donc parfois avec des transferts de plusieurs heures, quoi. Et voilà, donc ça reflète bien la façon dont...
À Lyon.
Ouais.
Pour le Covid.
Ouais.
Ouais, d'un point de vue sanitaire, ça a l'air très sens.
Oui, bah, puis, non, mais c'est affreux, quoi. Enfin,
et c'est une prison.
On sait quoi être sous escorte et tout, quoi, en fait. Donc voilà, et on rappelle, la seule solution, quand quelqu'un est testé positif, et même de manière générale, c'est on libère les gens, en fait. Mmh. Voilà, et on arrête de foutre des sanctions, encore pire à l'intérieur, qui sont des isolements. Ou autre quoi. Les gens vont s'isoler de leur côté, on les laisse sortir de toute façon. En plus, ils sont testés positifs, ils peuvent pas être envoyés. Donc, même avec leur propre loi, normalement, la personne n'a pas le droit de rester à l'intérieur d'un CRA vu qu'il faut qu'il puisse être expulsable.
Ouais, non, en vrai, c'est quand même plus compliqué que ça parce que la loi, elle est.
Oui, ils l'ont fait.
La loi est un peu floue.
Moi, je pense qu'ils font du commerce. Parce qu'en fait, pour chaque personne qui rentre au CRA, ben elle est enregistrée et tout. Et je ne sais pas c'est qui m'a raconté ça. Genre, les droits de l'homme, genre ils ont une caisse qui donne de l'argent pour... je ne sais pas comment ça se passe. Mais genre, nous, ils font du commerce avec nous. Parce qu'au moment où on est dedans, donc ils payent pour nous. Donc voilà, c'est du commerce. Parce que je ne vois pas pourquoi ils mettent des Algériens. Par exemple, alors aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les relations sont hyper tendues entre les deux pays. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent des Algériens pendant 3 mois et ils les laissent sortir. Moi, par exemple, j'ai passé 2 mois, ils m'ont laissé sortir. Il y en a plein hein, qui passent 3 mois et ressortent. Mais pourquoi vous les mettez 3 mois en prison, parce que c'est une prison, et pour les relâcher à la fin? Parce que déjà, les frontières sont fermées, il n'y a personne. Le président algérien, il n'accepte aucun retentissant étranger. Donc, pourquoi ils font ça?
Après, moi, sur les questions de business, je ne suis pas sûr que ça se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de business liés au centre de rétention ou à l'atoll, tu vois, Sodexo, oui. GEPSA, etc. Ils font
GEPSA,
des dessus,
etc., etc.,
ça, c'est sûr. Après, moi, j'ai l'impression que c'est vachement aussi lié au fait que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il n'arrête pas de vouloir donner des chiffres de personnes qui sont enfermées. Et par rapport à l'Algérie, ça justifie tout un espèce de rapport de force qu'ils essayent de créer pour forcer l'Algérie à accepter massivement des gens. Parce que quand même, il faut le rappeler, jusqu'à la crise Covid, en fait, l'Algérie, c'était là où il y avait le plus d'expulsions en dehors de l'Europe. Quoi. Et il y a des gens qui n'étaient même pas algériens, que le consulat algérien... Et qui se retrouvaient en garde à vue en Algérie pendant 3 mois et après étaient réexpulsés en France. Quoi.
Voilà.
Tu vois, et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'ils essayent de remettre en place. Quoi, tu vois. Mais ça légitimerait. Hein. Enfin, c'est-à-dire, nous, on pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait personne en centre de rétention. Et en période de Covid, de toute façon, les tôles et les centres de rétention, ils devraient être fermés.
Parce que déjà, pourquoi 3 mois? C'est, moi, je n'ai pas de papier. Je suis dans une situation irrégulière. Tu me contrôles, voilà. Bah, une semaine, 10 jours maximum, tu m'envoies dans mon pays. Pourquoi je vais rester 3 mois? Pour attendre quoi, 3 mois?
Ouais, bah on te punit d'être sans papier, en fait. C'est ça le truc.
Voilà. Parce que avant, c'était 45 jours. Maintenant, c'est 3 mois. Mais 3 mois, pourquoi tu vas me laisser 3 mois en prison pour me relâcher après? C'est une torture. C'est de la torture.
Et c'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent et parce que l'objectif, c'est d'envoyer un signal pour les prochaines personnes qui pourraient...
Non, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, par exemple, je parle de ma personne. Moi, s'ils m'envoient demain en Algérie, en une semaine, je suis là. Et le pire, c'est que je ne serai pas tout seul, parce que je connais la France, je connais l'itinéraire. Donc, à mon retour, je vais ramener quelques collègues. Bah, c'est ça. C'est ça qu'ils ne savent pas. Moi, si je descends demain, bah, vas-y. Moi, je leur ai dit. Moi, j'ai croisé le commandant, je lui ai dit, mais moi, j'ai envie d'aller dans mon pays. Ça fait 6 ans que je n'ai pas vu ma mère. Bah, vas-y, laisse-moi partir. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'accepte. C'est bon, j'accepte, je vais faire le test, je vais faire tout ce que vous voulez. Laissez-moi juste sortir. J'ai passé 2 ans de prison. Et à ma sortie, vous me rajoutez le centre de rétention, ben laissez-moi partir en Algérie. Et j'ai dit, des fois on parle avec des policiers, on sympathise un petit peu. J'ai dit, même moi, si demain je vais être en Algérie, dis-toi qu'une semaine après, je serai là, à Paris, pas à Marseille, à Paris. Je serai à Paris en une semaine. Donc voilà, ça sert à rien. Moi, par exemple, pour moi, mes amis sont tous ici. J'ai des amis français, des amis algériens, ils sont tous ici en France. Mon travail, il est là, ma vie, elle est là, ma maison, elle est là. Donc, si tu me renvoies dans mon pays, je vais revenir.
Bah, normal. Enfin, tout le monde essaierait, en tout cas, quoi. Ouais.
Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les 3 mois et le fait que ce soit vraiment une peine... bah justement, ça c'est justement aussi intéressant de voir l'évolution de ce truc-là, puisque du coup, jusqu'à il y a encore 2019-2018, c'était un mois et demi. Et par rapport au rapport entre la durée de la peine le lien qu'eux ils établissent avec le fait de pouvoir t'expulser, mais en fait, ça s'éloigne quand même de plus en plus et ça devient de plus en plus une peine.
Ouais, c'est une peine, parce qu'il y a aucun rapport.
Tout à l'heure, et ça me faisait penser au premier confinement où du coup, pendant plus de 3 mois, donc plus qu'une durée d'enfermement de CRA, les frontières avaient été totalement fermées. Ouais. Et à l'intérieur, les gens étaient toujours enfermés. Il y avait eu plein de démarches qui avaient été faites dans tous les sens pour essayer de justifier auprès des JLD, donc des juges de la détention et liberté, qui puissent sortir. Mais du coup, voilà, il ne s'était rien passé, ou très peu. Et voilà, c'était juste pour dire que c'est vraiment une peine, mais bon, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, mais c'est vraiment une peine, et que le rapport avec cette idée de dire c'est le temps d'expulser la personne, en fait, c'est...
Ouais, c'est...
Expulser quelqu'un maintenant. À l'époque des 45 jours, c'était 12 jours, okay. Pour la moyenne des expulsions, quoi.
À la moyenne.
Ouais. Et donc, ça, en fait, voilà, ça montre bien que tout ça, c'est totalement non-sens. Ouais. Si ça vous va, on fait juste une pause, parce qu'on va avoir le coup de fil juste après, et de toute façon, on peut continuer d'échanger avec la personne qui appelle, quoi.
Ouais, un petit coup de musique.
Show you good with a hand.
Ooh, yeah.
I won't put this on the gram.
I ain't no snitch.
I heard your nigga was a fan.
Ooh, yeah.
I'll sign something for your man.
If you like.
I'm the richest in the gang.
Course I am.
All my niggas getting banged.
Course they are.
If you in the milli gang.
If your paper's straight.
Make it M with your hands.
Then flip that M.
Show you good with a hand.
Ooh, yeah.
I won't put this on the gram.
I ain't no snitch.
I heard your nigga was a fan.
Ooh, yeah.
I'll sign something for your man.
If you like.
I'm the richest in the gang.
Course I am.
All my niggas getting banged.
Course they are.
If you in the milli gang.
If your paper straight.
Make it M with your hands.
Then flip that M.
Yeah. Pulled up quick. Like, who that kid? Ooh, that's Wiz. He on some Wu-Tang shit. That nigga no meth. He in the Wu-Tang clique. He still not rating your authority on who bangs sticks. Yo, who that boy? Who him is? Who that nigga? Tell the truth, my nigga. Oh, you that boy. You him is. I was trying to be like you, tell you the truth, my nigga. Galimony by the alimony. God, just keep your money. Let me keep my money. Satan waiting, devil down below me. Hoping that I slip so he can slice me like some fried bologna. Fried to Lumi before I fly to Louis. Bag a couple thousand worth of trousers, then I bang a Yui. And there's a scram if man that I can book. He had to rob his crop, it was a duty. Show you good with a hand.
Ooh, yeah.
I won't put this on the gram.
I ain't no snitch.
I heard your nigga was a fan.
Ooh, yeah.
I'll sign something for your man.
If you like.
I'm the richest in the gang.
Course I am.
All my niggas getting banged.
Course they are.
If you in the milli gang.
If your paper straight.
Make it M with your hands.
Then flip that M.
All this Gucci man, all these kicks. All these bumpers man, all these chips. All these breastises, all these tips. Got all these broke niggas talking all this shit. Pulled up quick, like who that kid? Who that Swiss, he on some gangster shit. I ain't saying I ain't feeling shit. I'm just the type of nigga that can handle it. I just dripped in some crispy kits. 50 grand for one outfit.
I bet my teachers all feeling pissed in their same old dusty old trousers. On a big man tin, I slap a nigga right out their wits. Run this whole family out of town.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 quand on est en direct, mais là on a quelqu'un au téléphone. Et sinon, sur le téléphone toute la semaine, le 07 53 10 31 95.
Allô.
Allô.
Ouais, tu nous entends ?
Oui, oui.
Ok, alors du coup, toi, tu es une proche de quelqu'un qui était à Vincennes jusqu'en décembre. Et on voulait revenir avec toi sur à la fois peut-être ce que c'est être une proche, enfin d'être proche de quelqu'un qui est incarcéré en centre de rétention et sur la manière dont ça s'est passé, voilà, sa période de détention en CRA, puis après son transfert en prison.
En prison pour un refus de test PCR. Donc le juge, il a condamné 3 mois de prison ferme.
Ça, pour redire un peu, c'est une pratique qui est courante depuis le début du Covid, où en fait, il y a beaucoup de pays et de compagnies aériennes qui demandent que les gens fassent un test qui soit négatif pour être envoyé. Et du coup, bah, normal, les gens, ils refusent le test pour éviter d'être envoyés. Et là, il y a une loi qui a été passée cet été pour dire que...
Oui, le problème de mon frère, c'est que le consulat de l'Algérie, elle livrait plus des laissez-passer. Il y avait un retrait de l'ambassade algérienne. Et cette période-là, donc il n'y avait aucun Algérien qui peut être expulsé de la France.
Yes,
ça a été dit. Donc on a confirmé avec le consulat de l'Algérie que moi-même, je me suis déplacée au consulat et à l'ambassade. Donc ils nous ont expliqué qu'on ne livre pas de laissez-passer pour les sortissants algériens. Jusqu'à maintenant, hein, donc il n'y a pas de laissez-passer.
Yes,
donc mon frère, il est malade psychologique. Donc, il est suivi, ça fait plus de 30 ans en France. Donc, il se trouve sur un contrôle de papier à côté de la maison de ma sœur. Donc, il l'embarque au commissariat du 12e arrondissement. Après, du 12e, le juge, il l'a remis à la rétention de Vincennes. Que ça s'est très, très mal passé. Donc, il a fait une tentative de suicide. Donc, ils l'ont fait traîner pendant... une dizaine de jours pour le faire opérer. Donc, ils sont battus avec lui jusqu'à ils l'ont tasé. Ils l'ont tasé en plusieurs reprises pour le ramener se faire opérer. Donc, après, il est resté 45 jours en rétention, maltraité, pas de nourriture, pas de douche, pas de. Il n'y a rien de propre, ni. Rien du tout. Donc, après, ils n'ont pas donné son traitement. On a tout fait pour son traitement, donc ils nous ont refusé qu'il accepte le traitement que nous-mêmes on lui a ramené. Et il a dit il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, ils l'ont laissé comme ça jusqu'à qu'il a essayé de faire une autre tentative de suicide. Donc après il a fini les 45 jours, il a été relâché avec 45 jours aussi d'aller signer 3 fois dans la semaine au commissariat du 12e aussi. Et après 48 heures, il s'est fait contrôler aussi à côté de en sortant de chez ma sœur. Ils l'ont amené aussi au centre de rétention. Et il a resté encore 45 jours. Pareil, la maltraitance, sans traitement. Il a chopé le Covid vraiment... Il est tombé vraiment malade, ils ne nous ont pas laissé le voir. Après, ils l'ont ramené au commissariat de Versailles. Il est resté 17 jours là-bas, enfermé. On ne pouvait même pas parler avec lui, ni le voir, ni rien du tout, ni lui ramener son traitement. Donc, ni à manger, rien du tout. Et après ça, ils l'ont ramené au centre de rétention. C'est pareil, question sanitaire, propreté, il n'y a rien, ni traitement non plus. Et là, le jour où dans sa tête, il va être relâché, et ils ont demandé de faire le test PCR. Il a refusé, donc il a passé 48 heures au commissariat du 12e arrondissement. Et...
Yes, du coup, ce que bah là, c'est un truc qui arrive à beaucoup de prisonniers depuis le Covid, qui du coup refusent le test et prennent des prisons fermes. Là, dans la loi, ça, ils disent que c'est passible du coup d'une interdiction de territoire français jusqu'à 10 ans et de plusieurs mois de prison ferme, quoi. Et, oui. Et du coup, bah, je sais pas, est-ce que toi tu veux raconter, parce qu'il y a déjà eu, il me semble, lui il a contesté cette décision au tribunal, et là il y a.
Si son avocat il a plaidé l'Algérie, elle ne nous a pas livré, il n'a pas livré à mon frère laissez-passer, donc il a tout fait pour qu'il soit relâché, mais côté préfecture, de la presse. Ils ont joué sur son casier. Donc, ça a été mal tourné par rapport au PCR.
Excuse, je ne sais pas trop. Je sais pas trop si tu te déplaces, mais là, on t'entend un peu moins.
Non, je me déplace. Non.
Ok, bah, je sais pas, non, mais juste. Ok, bah, excuse, désolé, mais c'est vrai qu'il y avait un certain moment où ça coupait et tout. Mais donc, oui, tu disais que l'avocat avait essayé de.
L'avocat, il a plaidé que. Ça sert à rien de le condamner et de le mettre en prison parce que il n'a pas laissé passer. Le consulat, il ne livre plus de laisser passer. Donc, finalement, côté préfecture, ils ont décidé qu'il soit en prison. Donc, ils l'ont mis en prison. Le juge, il l'a condamné 3 mois de prison.
Yes, bah, du coup, c'est un truc qui est carrément utilisé. En fait, puisqu'ils peuvent pas expulser les gens, ils ont pas envie de les relâcher. Donc, ils mettent des peines de prison ferme pour garder les gens sous le coude
plus longtemps. Oui, mais mon frère, ça fait 12 mois qu'ils sont en train de le traîner comme ça. C'est pas 3 mois ou 6 mois, c'est 12 mois. Moi, je trouve que la justice, elle abuse un petit peu. Un petit peu, trop même. Parce que pour quelqu'un qui est malade, il a un avocat pour régler ses papiers qu'il a obtenus en 2009, quand il voulait aller renouveler son laissez-passer, ça lui a été retiré. Donc nous, on a payé l'avocat, on a gagné la justice, le juge il a ordonné la préfecture qu'il lui donne ses papiers. Et la préfecture, elle n'a pas fait appel. Nous, jusqu'à maintenant, son dossier, il est suivi par son avocat. Et qu'il a demandé qu'il soit relâché. Et relâché parce que ça ne fait pas 1 ou 2 ans qu'il est sur le territoire. Ça fait plus que 30 ans.
Bah, ouais.
Et maintenant, je ne sais pas... où est-ce qu'on peut y aller pour faire quelque chose, pour aider notre frère il n'a personne au Maghreb. On est tous là, la famille, tout est là, tout le monde est là. Et la justice, elle ne veut pas comprendre ça.
Ouais, carrément, bah, tu as carrément raison de dire que ce n'est pas que la justice abuse un peu.
Ce qui m'a choqué en plus, c'est que quand il était... à la rétention de Vincennes, c'était la maltraitance. C'est qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de... Ça parle très mal avec eux, ils ont le droit de rien dire, ils ont le droit de ne... que s'ils demandent de voir un médecin, c'est toujours demain, 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 et quand ils appellent eux, la police appelle pour les malades, ils viennent... pour la visite. Alors, quand mon frère, il demande d'y aller, il dit, ben, vous n'avez pas de rendez-vous, vous restez là. Et voilà, donc, ça s'est très mal passé pour lui. Et comme il est malade psychologique, il pense que se suicider. Là, en prison, quand j'ai eu dernièrement, il a fait grève de faim, donc, il voulait ni manger ni rien. Déjà, ils n'ont pas à manger là-bas.
Juste la gamelle, quoi. Mais voilà. Par contre, le...
Et je lui ai envoyé le mandat le 3 décembre. Il ne l'a pas reçu. Il l'a reçu que le 3 janvier.
Ouais, du coup, ça veut dire que c'est resté dans les comptes de l'administration pénitentiaire pendant un mois, quoi.
Voilà, pendant un mois. Et son courrier, je viens de le recevoir depuis qu'il est arrivé en prison. Donc quand j'ai appelé le service social pour lui dire voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon frère il n'a pas eu son mandat, son courrier et tout, elle me dit oui, il passe par le procureur, donc c'est le procureur qui décide de le lire et de voir qu'est-ce qu'il y a. S'il a décidé qu'on ne le renvoie pas, on ne le renvoie pas. Quoi. Ouais. Mais finalement, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, que mon frère, ça fait 2 mois qu'il est incarcéré.
Et ça, c'est à la fois là ce que tu racontes sur un parcours où en fait, il y a des espèces de boucles d'enfermement infinies. Bah, malheureusement, il est quand même vraiment pas tout seul, pris dans ces trucs-là, quoi. On dit abuser, mais en fait, c'est une vraie pratique, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas juste un mauvais juge.
C'est la torture morale. Donc,
exactement. Et l'autre truc, c'est que là, ce que tu parles sur le courrier, c'est un truc dont nous, on parle très souvent. Quand il y a quelqu'un qui tombe, en fait, souvent, l'administration pénitentiaire, alors encore plus si c'est un proc ou un juge d'instruction, donc la personne, elle n'est pas définitivement condamnée. Voilà. Mm-hmm. C'est une pratique de retenir les lettres un maximum pour que le choc carcéral, donc l'isolement de la personne au moment où il tombe, il soit le plus fort possible, quoi. Et pour que les proches, ils soient le plus démunis aussi à l'extérieur. Et donc, ce que tu racontes, en fait, c'est vraiment, genre, c'est une vraie pratique en prison, quoi. Et c'est hyper scandaleux, puisque déjà, quand t'as un proche qui tombe, bah, tu t'inquiètes forcément pour lui. Et y a les nouvelles, elles arrivent hyper tard, quoi.
Et moi, je les ai harcelés pour savoir de ces nouvelles. Le service social, la personne que j'ai au téléphone, qui le suit pendant son incarcération, là où il est, donc je lui demande s'il va bien, il me dit oui, il va bien, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, et il est enfermé, ben, et tout, jusqu'à que j'ai eu son courrier, il m'a expliqué qu'il a fait grève de faim depuis qu'il est arrivé là-bas, il ne mangeait pas, et il a demandé le médecin pour le voir, et donc il n'y a pas de médecin, et on a essayé de contacter son médecin qui le suit psychologique à l'extérieur. Il peut rien faire, il a juste renvoyé un mail au médecin de la maison d'arrêt de la santé pour voir qu'est-ce qu'il a exactement et tout.
Et du coup, je crois, Mohamed, tu disais que tu étais en même temps à Vincennes que le frère de Soraya.
Oui, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui a la même histoire. Bah, il a vécu 30 ans en France et il parle même pas un mot en arabe. Il connaît personne en Algérie, il n'y a personne de sa famille en Algérie. Et je ne vois pas comment un juge, pour quelqu'un qui a des preuves, qui est en France depuis 30 ans, comment il peut l'envoyer en Algérie alors qu'il n'a personne, alors qu'il est malade en plus.
Oui. Et on a donné toutes les preuves, hein, donc tous ses papiers.
Donc c'est quelqu'un qui a un dossier.
Même ton avocat, il est intervenu pour dire que voilà, ce monsieur, je le suis. Par rapport à ses papiers, pour le médecin pour sa santé, le service social, mais le juge, personne ne veut prendre tout ça en compte.
Oui.
Tu veux être expulsé, bah, tu vas être expulsé, et c'est tout.
Bah, j'aimerais intervenir sur ce truc de préfecture-juge. En fait, il y a un juge qui disait bah, je ne peux rien faire, c'est la préfecture. Mais,
oui, le juge, il se renvoie la balle. Le juge dit qu'il ne peut rien faire et la préfecture, elle dit c'est le juge qui décide. Alors, qui décide, on ne sait pas.
C'est la préfecture.
Le juge, dernièrement, il a été relâché par le juge, qu'il a dit qu'il a exigé qu'il soit libre par rapport à sa maladie, parce que c'est un malade, il ne peut pas être enfermé longtemps, parce que s'il lui arrive quelque chose, il va se suicider. Donc, le juge, il l'a relâché. Et la préfecture, ils lui ont demandé de rester 10 heures. Si la préfecture, elle ne fait pas appel, il sera libre. Donc, 5 heures après, même pas 10 heures, 5 heures après, ils ont dit que la préfecture, elle a fait appel. Ils l'ont fait retourner la rétention de Vincennes.
Et peut-être un truc aussi dont on voulait parler, c'est que là, le week-end dernier, il s'est passé un truc à Vincennes. C'est quelqu'un qui allait rendre visite à quelqu'un qui était enfermé à Vincennes. S'est fait contrôler à l'entrée par les flics qui ont trouvé, on ne sait pas trop comment, que cette personne avait une OQTF, donc la personne était en situation irrégulière. Et les flics ont voulu essayer de l'arrêter. Du coup, la personne a essayé de s'enfuir. Et les flics l'ont poursuivi et lui ont tiré dessus. Et ça, on se dit que c'était important d'en parler aujourd'hui parce que déjà, ce n'est pas normal que les gens soient contrôlés quand ils vont rendre visite à des gens.
Bah oui,
et que là, ils empêchent encore plus les gens de rendre visite à leurs proches. Et en plus, que ça en vienne à genre tirer sur quelqu'un, c'est abusé.
Ça s'est arrivé à une femme aussi, on était là-bas. J'étais là-bas une fois, et on attendait, et jusqu'à qu'on a vu une dame, elle courait, on ne savait pas pourquoi. Et à un moment donné, on a vu une dizaine de flics qui couraient derrière elle. Après, ils l'ont ramenée, ils l'ont fait entrer à l'intérieur. Elle criait et tout. Elle parlait, je crois, une autre langue, je ne sais pas quelle langue. Elle criait. Comme elle avait, je crois, elle était avec une personne, elle ne voulait pas se montrer qu'elle était avec elle. Et après, ils l'ont ramenée. Et nous, ils nous ont retardé de 13h30, je me rappelle. On est rentré jusqu'à 16h. Ils ont commencé à faire rentrer les gens à partir de 16h, 16h30. Que nous, on était à 13h30 là-bas.
Donc ça veut dire que c'est quand même une pratique, classique, en fait, qui font là-bas, quoi. Donc là, on a atteint ce moment.
C'est la loi du fort. Donc, quand on a demandé qu'est-ce qu'il y a, il faut nous dire ils nous crient dessus. Restez là-bas, vous voulez rentrer chez vous, on vous donne vos pièces et vous rentrez chez vous.
Alors, l'émission, elle va bientôt se terminer. Donc, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que ça se termine ?
Moi, c'est juste que je demande s'il y a une possibilité de... La justice fait un travail propre, que ça ne sert à rien de les enfermer, surtout les gens malades, les gens qui sont vécu en France toute leur enfance ici, de appliquer des lois que ça devait être une loi, ça s'applique pas sur une personne qui a grandi en France, qui a tout fait en France, qu'il l'aide pas à avoir ses papiers ou je ne sais pas. Voilà, donc
On espère qu'il va être libéré le plus vite possible, en tout cas.
J'espère pour lui, oui. On essaiera, oui, mais après moi, c'est ce que j'ai dit à son médecin. Il ne sera pas relâché, ça va être problème diplomate. Ça va être pays entre pays. C'est ce qu'ils m'ont dit, l'ambassade de l'Algérie. Ils me disent, s'il n'y a rien d'ici là, vous revenez nous voir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui.
Et je voulais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à voilà, maintenant, tu parlais de faire appel. Un moment. Et c'était juste, je voulais faire tourner l'info aussi à l'intérieur aux gens qui écoutent et tout. Nous, la plupart des gens qui nous ont raconté un peu comment ça s'est passé, généralement, quand les personnes, quand les prisonniers ou les prisonnières sont condamnés pour refus de test PCR à une peine de prison, généralement, c'est entre 3 mois de sursis, 3 mois de ferme, 6 mois de ferme. Et généralement, en appel, la moyenne, elle est plus entre 6 mois de ferme et 1 an de ferme. Et voilà, c'est pas pour faire un conseil général de dire de ne pas faire appel, parce que je suis pas du tout habilité à donner ce genre de conseil. Mais en gros, voilà, de la plupart des témoignages qu'on a, c'est plutôt ça. Et ça me semble important de faire tourner un peu cette info et de faire attention d'aller en appel.
Mon frère, il a fait appel. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il a fait appel parce que...
Après, il y a plein de choses à défendre. Enfin, je sais pas quelle est la date dans laquelle il y a eu le test PCR, mais la loi a changé en fait au milieu. Donc là, ça passe pas. Je ferme ma gueule. Derrière, le truc c'est que c'est aussi à travers ces peines-là, quand ils mettent des peines beaucoup plus lourdes en appel, l'objectif c'est aussi de faire peur pour que les gens ne fassent pas appel et usent plus de leurs droits. Donc c'est pas pour dire aux gens d'y aller et puis d'aller la mort au fusil et tout ça, quoi. Mais c'est juste que aussi en fait ils mettent ce type de peine exprès dans cet objectif-là, que les gens fassent plus appel et n'usent plus leurs propres droits. Donc il y a un moment, enfin, c'est pas pour dire que c'est bien ou mal, enfin voilà, enfin en tout cas leur pratique, c'est sûr que c'est vraiment des pratiques de salopards. Il y a pas de question à se poser, voilà, après c'est un droit normalement que tu as, où tu dois pouvoir te défendre. On sait très bien que dans les pratiques, c'est toujours un risque de faire appel.
C'est ce que j'ai dit à mon frère quand il m'a appelé avant-hier. Je lui ai dit, tu ne devais pas faire appel. Il me dit, je ne savais pas. Ils m'ont dit, fais appel, j'ai fait appel.
Après, un appel, ça se retire toujours. Hein. Et en fait,
il m'a expliqué qu'il peut la suspendre en audience, quoi.
Oui, et puis même avant et tout ça, il peut toujours, parce que en fait, pourquoi ils mettent des peines aussi grosses, c'est qu'ils ils ont pas envie de juger des gens en appel parce que ça leur coûte un peu d'argent. Et voilà, donc parce que ça mobilise un juge et tout. Mais donc si avant un mois, deux mois avant de passer au tribunal, il dit non, mais en fait je retire mon appel, ils seront très contents et ils feront le truc, hein, donc voilà.
Bah, ce que moi je te propose en tout cas, c'est que donc la semaine prochaine c'est une émission enregistrée, mais tous les vendredis tu connais le numéro du direct, donc si tu as besoin d'appeler, de donner des nouvelles. Si tu veux faire un coucou à ton frère, s'il a accès à la radio ou quoi, faut pas hésiter.
D'accord.
Et nous, on essaiera quand même de donner des nouvelles de sa situation. Quoi.
Si j'ai des nouvelles, j'appellerai pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé le jour de jugement. Et voilà.
Plein de force à toi.
Ouais, beaucoup de force. Merci d'avoir pris la parole.
Et bon courage pour vous aussi. Vous continuez comme ça. C'est dommage que ça se passe. Pas comme BFM et le reste.
Oui, on a moins de personnes qui nous regardent. On espère que c'est moins chiant. Merci
bonne
beaucoup
soirée.
À toi.
Ouais,
on va passer un petit coup de. Non, on passe pas de musique. On continue.
Ouais, désolé. Hein. Donc l'émission, elle va être un peu intense pour finir. Ça fait plusieurs semaines qu'on est censé parler de Youri Laroche. Youri, c'est un prisonnier qui est actuellement enfermé à Vendin-le-Vieil. Je vais juste retracer vite fait ce qui s'est passé pour lui. C'est quelqu'un qui s'est fait condamner en Guadeloupe, qui a eu un transfert en métropole, donc en France, qui n'a pas de famille en France, donc sa famille elle est au pays, quoi, à 8000 km. Donc quand ils font des parloirs, ils doivent payer un billet d'avion, s'organiser vachement en amont. Et du coup, c'est quelqu'un de relativement isolé en fait, en France, quoi. Il a été placé à Condé-sur-Sarthe en 2018, si je ne dis pas de conneries. Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, là, les deux tôles dont je vais parler, c'est les tôles les plus sécuritaires de France qui ont été créés et inaugurés d'ailleurs par Christiane Taubira, hein, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, qui ont été créés pour briser les prisonniers qui se révoltent, et particulièrement chez les longues peines. Et donc pour ça, il y a tout un tas de pratiques qui sont faites à l'intérieur, beaucoup de violence évidemment, des matons très racistes, une utilisation du QI particulièrement vénère, et encore plus avec les questions de leur nouveau quartier pour radicaliser, où en gros, si t'es placé là, même si t'as pas une fiche S, en fait tu vas l'avoir forcément dès que t'auras la moindre interaction avec un autre prisonnier, quoi. Et donc en 2019, si je dis pas de conneries, en mars, il y a eu un UVF, où il y a une altercation entre un maton et un prisonnier. Le maton, lui, va parler d'attentat. Du coup, ils vont appeler le RAID. Ils vont tuer la femme du prisonnier. Ils vont envoyer des grenades et exploser la mâchoire du gars. Donc, en disant que c'est quelqu'un qui est proche de Daesh, etc. Bon, nous ça, c'est pas trop notre histoire, quoi. Mais c'est juste qu'en fait, même si la personne elle a un schlass, t'es pas obligé de tuer quelqu'un ni d'envoyer des grenades dans une UVF, quoi. A priori, hein. Enfin voilà. Suite à ça, les matons de Condé, ils vont bloquer pendant plus de 3 semaines la tôle. Ça veut dire plus de parloir, plus d'activité, plus d'accès au téléphone pendant un temps, plus de cantine aussi pendant un moment. Et donc, les IRIS qui gèrent la détention. Voilà. Donc les IRIS, c'est des gens qui aimeraient bien être le GIGN de l'atoll, mais qui en gros sont des espèces de... Ouais, voilà, tu vois, des gars
les
un peu...
Les ELAC.
Voilà, c'est les ELAC en plus, quoi. Ils sont,
les ELAC sont dans la prison et voilà. Les IRIS sont dehors. Donc,
exactement.
Ils interviennent quand il y a quelque chose de...
Et donc là, c'est eux qui gèrent la prison à ce moment-là. Et donc quand les IRIS, ils gèrent une prison, c'est très très violent, parce que ces gens-là, en fait, ils sont formés que pour taper.
C'est comme les militaires qui gèrent le pays, quoi.
Voilà. Voilà. Exactement. Et donc ça pendant 3 semaines. Et donc sachant que c'est déjà des prisonniers qui prennent particulièrement cher au quotidien, et que en fait une des seules manières d'être transféré de Condé-sur-Sarthe, c'est d'avoir un transfert disciplinaire. Donc de reprendre une peine interne en se révoltant, en ayant une altercation avec un maton, etc. Il y a des prisonniers qui réussissent à pécho un téléphone portable. Alors voilà, on sait pas trop comment, mais c'est même pas la question, et qui vont se faire passer le téléphone portable de cellule en cellule avec un yo-yo, et qui vont raconter exactement ce qui se passe à l'intérieur au bout de 3 semaines. Tous.
Ça le jour où il y a Belloubet qui vient annoncer aux matons tout ce qu'ils ont demandé et ils ont tout obtenu, quoi.
Ouais, ils ont obtenu plus d'armes, ils ont obtenu que les IRIS continuent de gérer la détention pendant un petit temps après leur retour. Bref. Il y a cette vidéo qui sort, qui est d'ailleurs, et je pense c'est sur le site de l'Envolée.
Les retranscriptions aussi.
Et qui, voilà, qui est importante à continuer de diffuser parce que c'est pas une parole qui est très fréquente, quoi. Mais évidemment, ce qui se passe, c'est que derrière, bah, l'administration pénitentiaire, elle va se venger en fait de ces 7-8 personnes qui prennent la parole. Yuri, donc, c'est un des gars qui est sur la vidéo et qui raconte à la fois que, bah, évidemment, il n'y a pas de réinsertion, que en fait, on les pousse juste à s'énerver et à prendre des risques et à rentrer dans des espèces de cycles infernales où, bah, voilà, tu te révoltes, tu prends une nouvelle peine, donc tu te révoltes, etc., etc. Lui, il est transféré à Saint-Maur après. Et Saint-Maur, c'est aussi une tôle, une centrale dont on parle assez souvent ici. C'est une centrale, bah, avant Vendin et Condé, c'était une des centrales qui était utilisée pour briser les gens aussi, quoi. Et c'est une centrale, donc c'est à côté de Châteauroux, qui a la particularité, mais comme plein d'autres tôles, où les matons, ils sont matons de père en fils ou de la filiation, bref, quelle qu'elle soit, quoi, de génération en génération. Donc tu t'embrouilles avec un maton, c'est toute la matonnerie, en fait.
C'est la
famille. Voilà, tu vois. Et donc aussi, ça fait des matons un peu... je sais pas utiliser un bon terme là, politique, mais enfin un peu pas dégénéré, mais enfin voilà, du coup ils sont matons de père en fils, de non mais voilà,
autoritaire,
enfin voilà, du coup il y a un truc quoi qui se passe en eux quoi.
C'est biologique quoi.
Voilà, bon, je voulais pas exactement dire ça, mais en gros le truc c'est que à Saint-Maur, Yuri lui il prend particulièrement cher, c'est-à-dire que il est à nouveau au QI, il a quasiment pas accès à la cabine, sa gamelle elle est divisée par deux, il y a des jours où on lui file pas, il a pas de possibilité de cantiner parce que les mandats ils arrivent pas, voilà, et donc ça dure plusieurs semaines où lui il va essayer de lutter de plein de manières différentes, il y a des courriers qui vont partir pour expliquer qu'on est au courant de la situation, etc. Et les matons ils vont être de plus en plus violents avec lui, lui mettre de plus en plus la pression, jusqu'à ce qu'à la fin il réussisse à obtenir son transfert au CNE de Fresnes, donc le centre national d'évaluation, qui est craré là pour juger la dangerosité des gens, quoi. Donc ça peut être utilisé pendant la peine pour juger la dangerosité des gens ou en fin de peine pour juger si la personne elle mérite une conditionnelle après une longue peine. Donc pendant 3 à 6 semaines, il va être examiné par tout un tas de psy, de machin, qui au moindre truc que tu peux dire, ou au moindre faux pas, ou au moindre rapport de la détention qui vient d'avant, vont décréter que t'es quelqu'un de dangereux ou pas. Lui, il arrive à s'en sortir et il est placé à Réau. Donc Réau, c'est une tôle qui est dans le 7-7, qui est un centre de détention. Ça se passe plutôt mieux, même s'il est au QI. Sauf que il y a un maton qui voilà lui met un vieux compte rendu d'incident pour une raison un peu à la con quoi, et il mange un transfert à Vendin. Et en fait on voit très bien que c'est calculé, hein, c'est-à-dire ils l'ont laissé souffler pendant un mois, reprendre un tout petit peu d'espoir, de se dire ok je suis loin de chez moi mais peut-être que ça va arriver, tout ça. On le transfère le jour ou la veille où il doit avoir un parloir avec sa mère. Donc sa mère elle est venue de Guadeloupe, elle a pris un billet. Elle arrive à Réau et là, elle capte que son enfant il a été transféré ailleurs. Donc, elle vient de faire 8000 bornes pour rien. Elle vient de claquer je ne sais pas combien d'argent pour rien. Et il est transféré à Vendin. Vendin, juste pour dire, quand on dit que c'est une prison qui est particulièrement violente et qui est là pour briser les gens, il y a une lettre assez longue de l'infâme dont on a souvent donné des nouvelles ici. C'est l'émission du 20 novembre 2020 où il raconte comment il se fait agresser, comment il se fait limite tuer, violer par les matons. De Vendin en réaction au fait que lui, même s'il est à Vendin, il continue de lutter et continue de les envoyer se faire foutre, quoi. C'est ces mêmes équipes-là qui sont actuellement sur Yuri. Il continue d'avoir des galères. Là, il a été mis au mitard pour des conneries. Et ces matons-là, Yuri en plus, il est guadeloupéen, c'est des matons qui sont particulièrement racistes, quoi. Alors, on développera ça dans les prochaines émissions de février. Mais en attendant, on voulait donner... Enfin, lui, il aimerait bien qu'on lui écrive un maximum. Donc, je vous donne son nom. C'est Yuri Laroche. Son écrou, c'est le numéro 700. L'adresse de la tôle, c'est 5 rue Léon Drou, 62880 Vendin-le-Vieil. Et on rappelle juste qu'en fait, écrire des lettres à quelqu'un qui est en quartier d'isolement, c'est en partie essayer de mettre fin à cet isolement, que lui, il a très peu de soutien en France, et donc que c'est important de montrer et à la tôle et à lui qu'en fait, il y a du monde qui pense à lui, et de montrer à la direction de Vendin qu'il n'est pas tout seul et qu'on ne laissera pas faire en fait s'ils font des dingueries, parce qu'on sait très bien aussi ce qu'ils sont capables de faire. J'en profite juste pour rappeler que c'est quelqu'un qui a encore le moral, qui est encore en bonne santé malgré tout ce qu'il prend, etc. Et que du coup, il n'y a aucune raison qu'il se suicide dans les prochains jours, quoi. Et donc, quoi qu'il arrive, ce sera la direction de l'administration pénitentiaire, la direction de Vendin et tous les matons concernés qui seront tenus pour responsables. Et donc voilà, il y aura le numéro d'écrou et son adresse dans le fil de l'émission. Il ne faut pas hésiter aussi, si vous avez envie d'écrire à la direction de Vendin, pour leur signaler qu'on est au courant de la situation et qu'il est temps qu'il obtienne un transfert le plus possible vers l'Île-de-France parce que c'est ce qui permet à ses proches de payer le moins cher pour aller le voir, quoi. Voilà.
Moi je dis, moi je voulais dire que heureusement qu'on a des gens qui savent lire et écrire. Parce qu'en prison, il y a des gens qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Et ça leur met la tâche un peu difficile. Parce qu'en fait, pour chaque truc qu'on a besoin, ils devraient écrire. Pour aller à Luxa, pour aller... Donc là, je dis Dieu merci que le monsieur ou sa femme, ou ils savent écrire. Comme ça, pour expliquer leur situation.
Ouais.
Voilà.
Et alors, juste, l'émission, elle va bientôt se terminer. Du coup, avant qu'on passe au coucou, je voulais juste donner une date pour l'agenda. Le 2 février, donc c'est mercredi, pas le prochain, mais celui d'après, il y a une rencontre qui est organisée par l'Union Locale Solidaire à Mantes-la-Jolie. C'est à la librairie La Nouvelle Réserve. C'est au 5 rue du Maréchal Foch. Je ne sais pas comment on dit le nom de ce gars, quoi. Mais donc c'est à Mantes-la-Jolie. C'est organisé parce qu'il y a la construction d'une nouvelle tôle à Magnanville. C'est un centre de détention. Sachant que là-bas, il y a déjà un EPM, un quartier pour mineurs. Il y a déjà une tôle pour meufs. Il y a déjà un centre, une maison d'arrêt. Et donc, c'est voilà, une nouvelle tôle supplémentaire. Il y a un collectif qui commence à se monter. Et c'est cool que des syndicats se posent la question de comment s'opposer à cette construction. Nous, on trouve ça hyper intéressant. Et du coup, on va participer. On va présenter le bouquin « La peine de mort n'a jamais été abolie ». On va participer un peu à la discussion sur voilà, comment réfléchir ensemble à empêcher la construction de cette tôle.
Il y a une bonne nouvelle qu'on a vue là au milieu de la semaine, c'est que Jennifer, dont on parle dans le numéro et tout ça, est sortie de prison, donc on va lire très rapidement le petit communiqué qu'il y a. Après plus d'un an et demi d'incarcération, dont 9 mois à l'isolement pour le simple fait d'être une femme trans, Jennifer est sortie de prison à la toute fin de l'année 2021. Pour rappel, elle avait été incarcérée après un viol, après avoir reconnu l'homme qui l'avait violée dans la rue et après s'être battue avec lui. Le tribunal avait tranché. Jennifer serait dangereuse et le viol ne serait pas le sujet de son procès. Elle a pris 5 ans et près de 10 000 euros à payer. Nous avons à l'heure actuelle pas de nouvelles des suites données à l'enquête suite à sa plainte pour viol. Jennifer est sortie et toute sortie de prison est difficile. Elle a été coupée du monde pendant 19 mois, dont la moitié passée en isolement. Il faut réappréhender l'extérieur et prendre soin d'elle. Nous continuons à la soutenir en ce sens. Nous tenons à remercier tout le monde, chaque personne qui a partagé son histoire sur les réseaux, qui a parlé d'elle, qui a écrit, qui lui a écrit et lui a envoyé de l'argent. Vous avez été nombreux et nombreuses à la soutenir et ça a vraiment fait une différence. Merci. Malheureusement, ce n'est pas fini, ni pour Jennifer, ni pour les prisonniers et prisonnières enfermés. La prison, au-delà d'une privation de liberté, se traduit par une atteinte aux droits humains. Les personnes trans subissent ces traitements violents de manière spécifique. Nous vous encourageons à continuer d'en parler, continuer d'écrire aux prisonniers et prisonnières, continuer de soutenir les collectifs et associations qui luttent pour rendre le quotidien des personnes trans incarcérées un peu moins pénible. Voilà, donc c'était le collectif, c'est le collectif ou le comité de soutien à Jennifer.
Ça fait plaisir en tout cas.
Ça fait plaisir. Voilà, et c'est aussi important de parler que la sortie c'est toujours un truc compliqué et de toute façon c'est quelque chose dont on continuera à parler dans les semaines à venir. On a plein d'autres coucous.
D'abord des coucous de Joël.
Grosse dédicace donc de la part de Joël au centre de détention des Baumettes, à l'ancienne, pardon, au centre de détention des Baumettes. T'inquiète, j'espère qu'on se croisera fin février pendant ta perme. Force et courage aux détenus. Emma et Delphine, content d'avoir à nouveau reçu vos lettres. Perdez pas le moral, si c'est le cas, je continuerai à vous écrire. Super Jordana, que tu sois enfin au centre de détention comme tu le voulais. N'hésite pas à donner des nouvelles. Adeline, où que tu sois, si tu entends ce message, je t'envoie un maximum de force. J'espère que t'es pas trop déprimée et que ton probable transfert t'amène pas des galères en plus. N'hésite pas à nous écrire, les potes me transféreront à l'envolée. Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Grosse pensée pour Fabrice Borromé. Courage à toutes les personnes enfermées et à leurs proches.
Moi, je voulais passer un gros big up à tous les proches de Jimoni qui se sont rassemblés mercredi. On était nombreux, il y a eu des prises de parole. On sait que après les rassemblements, c'est toujours dur. Plein de force à eux. Tous les prisonniers et prisonnières de France.
Plein de force à Flo. On pense à toi, Cimer, pour tout ton courrier. Un gros big up à l'infâme aussi. On se voit la semaine prochaine, ça fait grave plaisir. Kémy qui est sorti de l'isolement, ça c'est une bonne nouvelle.
À Francis aussi qui a été transféré. On ne sait pas trop comment ça se passe là-bas. Et on va t'envoyer le prochain numéro qui a été envoyé à ton ancienne tôle.
Ouais, je crois qu'il lui manque pas mal d'affaires. Hein. Ils l'ont transféré avec un tout petit carton et que c'est la galère. Et je crois que aussi on a reçu une lettre de toi qu'on doit lire. Et voilà, c'est juste que il faut checker un peu ce qu'on s'envoie. Okay. Et le truc, c'est là, c'était une grosse émission, mais dans deux semaines, on lira ton courrier.
Est-ce que tu as sûrement des coucous à passer ?
Oui, déjà, la même chose, force à tous les prisonniers, tous les gens qui se trouvent au centre de rétention. J'aimerais faire une dédicace pour tous mes amis qui m'ont soutenu, que ce soit en prison ou en centre de rétention, Lamine, Fazil, Mehdi, Shafa, tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et encore une fois, force à tous les prisonniers et tous les gens qui se trouvent en centre de rétention. C'est vrai que c'est pas facile, donc force à vous les gars.
Ouais, et ben alors.
Et pareil de nous, quoi. Force à. On sait qu'il y a des prisonniers et des prisonnières qui nous écoutent là en ce moment, qui ont écouté l'émission en crowd, on a les petits retours par SMS. Donc je vais pas dire les prénoms parce qu'on n'est pas sûr que c'est OK, mais on pense à vous et force à vous et voilà.
Ouais, et bah merci à vous d'être passé aussi pour relayer ça. On rappelle juste qu'il y a un blog, c'est abalekra.noblog avec un s.org, qu'il y a un numéro de téléphone qui est dessus pour tous les proches, toutes les personnes qui sont enfermées en centre de rétention, pour entrer en contact avec l'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France. Et bah c'est rediffusion mercredi matin 8h30. Et l'émission de la semaine prochaine sera une émission enregistrée. On revient en direct dans deux semaines. Et donc voilà, en attendant, il n'y a pas d'arrangement, force, courage et détermination.
One man show, that's capo. Yeah. Head down toe, that's capo. Yeah. Black boy fly, that's capo. Yeah. Men like C, that's capo. Peppermint fresh, little capo. That boy flames, me capo. Yeah. Mm. 2+2, that's capo. Mm. Yeah. All her king, little capo. Sickest nigga out, you sneeze. I'ma take it all on G. Mm. Break a nigga neck on E. Ooh. Put these rappers back, that sleep. Oh, ain't nobody fucking with C. So I take them all on G. Mm. Got these frauds on my D. Cramming for they can't breathe. Mm. Oh man, who the fuck again? Yeah. The boy is hopping on these Benjamins. Yeah. You ain't popping in my eyes, my friend. Ooh. Better lock him in his residence. Yeah. 2020 run for president. Yeah. These rappers dying for their relevance. Yeah. Loki killing, write your testament. Yeah. Triple five back on these decks again. Ooh. One man show, that's capo. Yeah. Head down toe, that's capo. Yeah. Black boy fly, that's capo. Yeah. Men like C, that's capo. Peppermint fresh, little capo. That boy flames me capo. Mm. 2+2, that's capo. Mm. All her king, lil' capo. Damn dog, how you going stupid like this? Busted on the head top, give him some to sniff. Damn dog, how you going stupid like this? Busted on the head top, give him some to sniff. Mm, we got a ransom, she keeping that ass cum. Goddamn, I think it's random, she think that I'm handsome. My man, Syrian Rasco, no kicking your ass, bro. They stand, making them pass, though, just cause I said so. Ay, they tried and fed, they couldn't classify. Quit and go when the drip arrives. Kept on talk, they gotta sit in silence. Bitch slept their numbers, they would trust their eyes. Smoke your fly, come and meet your pilot. Niggas shaking cause I'm by the pilot. Don't you hesitate, go and be the loudest. Go and run your mouth so we can talk about it. One man show, that's capo. Head down toe, that's capo. Black boy fly, that's capo. Men like C, that's capo. Peppermint fresh, little capo. That boy flames me capo. Mm. 2+2, that's capo. Mm. All her king, little capo. Damn dog, how you going stupid like this? Busted on the head top, give him some to sniff. Damn dog, how you going stupid like this? Busted on the head top, give him some to sniff.